J'ai refusé totalement ce qui
s'est passé. Et vous voici au personnage, pour
bienvenue à l'émission 100% interactive de Radio Capi. C'est parti pour près de 60 minutes d'échange avec vos auditeurs sur des sujets qui concernent votre vécu au quotidien. Parole aux auditeurs de ce mardi s'intéressent au service anti-incendie en RDC. Il suffit d'une étincelle, d'une flamme mal entretenue dans un milieu tropique proche des combustibles pour qu'un incendie se déclare et se propage. C'est le cas dans plusieurs points et recoins de la RDC, que ce soit dans les zones rurales ou urbaines. Les origines de ces catastrophes sont diverses, néanmoins, il est rare dans nos milieux de voir un service anti-incendie à l'œuvre. Et s'il fonctionne, ce service composé des pompiers surnommés aussi soldats du feu arrive souvent avec un grand retard. Question pour lancer notre discussion, avez-vous un service anti-incendie dans votre milieu? Que faut-il faire pour le rendre performant? Romain Wissier de Gingoulou est dans notre studio, c'est notre invité, il est expert dans la lutte contre les incendies, il est aussi formateur au centre de formation pour la protection civile. Kiki Poutou, Pierre Lamégie, sous la supervision de Nikon Daka, qui est à la réalisation de cette émission, Jean-Claude Kiala est à la mise en œuvre.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par Internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Bonjour, Monsieur Romain Ousté de Gingoulou.
Bonjour, Marie-Chantal.
Vous êtes expert dans la lutte contre les incendies, formateur au centre de formation pour la protection civile. Plusieurs cas d'incendies sont signalés à travers le pays. Certains cas ont un bilan lourd, des dégâts matériels très importants, comme c'était par exemple le cas à Sangué, au sud Kivu, avec l'explosion d'un camion citerne où plus de 400 personnes ont perdu leur vie et plusieurs logis sont partis en fumée. Et aussi d'autres cas d'incendies qui ont, on constate des pertes qui sont légères. Mais souvent, après un incendie, nous nous retrouvons devant un spectacle assez désolant, M. Gingoulou. Avant que vous puissiez donner votre avis, votre expertise à ce sujet, écoutons d'abord quelques auditeurs, comme Edmond qui est déjà en ligne, nous appelle à partir de Matadi, il est victime d'un incendie, il pourra témoigner, mais aussi les autres auditeurs qui nous suivent en ce moment, ils peuvent nous contacter au 081 890 63 15, je répète pour eux, le 081 890 63 15, nous allons les rappeler pour pouvoir, pour leur donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer, ou carrément s'ils sont connectés sur le net, ils peuvent nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Bonjour Edmond.
Bonjour Marie-Chantal.
Vous nous avez écrit un long mail, c'est pourquoi on a tenu plutôt à pouvoir vous appeler pour que vous puissiez témoigner. Vous êtes à Matadi, vous êtes victime d'un incendie. On vous écoute. Quel est votre témoignage?
Oui, Madame Marie-Chantal, j'ai été victime d'un incendie très grave qui a ravagé toute ma maison le 13 octobre 2009 à Matadi.
Et quelles étaient les origines de cet incendie?
Oui. L'incendie avait commencé, d'abord il n'y avait pas de courant à la maison et dans les quartiers. Toute la famille s'était déplacée pour l'église, pour suivre un séminaire. Alors le courant a été rétabli après nous. Quand il est revenu, il était tellement fort, il a secoué tous les quartiers, puisqu'il y a des témoignages dans tous les quartiers. Alors chez moi, comme il n'y avait personne responsable, alors le courant a provoqué un court-circuit qui a provoqué l'incendie, qui a donc détruit la maison à 90%. Tous mes biens ont été calcinés. D'ailleurs, la ville de Matadi, tout le monde en parle, parce que ça a été diffusé à la télévision, ici à Matadi, télévision locale, on en a même parlé à la radio locale.
Et vous avez tout perdu, est-ce qu'il y a un service incendie, qui est anti-incendie, qui est passé, qui a pu vous aider à pouvoir éteindre ce feu?
Oui, madame Marie, comme j'habite dans un quartier qui n'est pas loin de la résidence de ce monsieur de gouverneur, il y a un service de garde. Quand on a passé la fumée, ils ont eux-mêmes déjà appelé le service anti-incendie du port de Matadi, c'est le mix qu'on a ici à Matadi.
Mmh.
Alors ce service s'est amené presque 2 heures en retard, alors que tout était déjà calciné. Bon, ils ont avancé leurs raisons, puisque la route qui mène chez moi n'avait pas une bonne accessibilité, et c'est de suite. Ils sont quand même amenés, mais 2 heures après, mmh. Tout était déjà presque calciné. Mmh. Moi, où je vous parle, donc...
Oui, dites-moi.
Oui, au moment où je vous parle, donc, nous vivons dans des conditions très difficiles, très très difficiles, comme je vous ai dit dans mon mail. Nous occupons presque les 10% qui étaient restés avec une toiture suspendue, avec tous les odeurs de brûlés, tous les murs sont noircis, nous continuons dans ces conditions. Les autorités même locales ici, dans notre province, sont au courant de ça. Ils ont promis un geste, mais qui n'est pas encore accompli. Bon, je crois que c'est peut-être une lampée administrative.
Oui, mais dites-nous, Edmond, à votre avis, pour qu'il n'y ait plus d'autres cas pareils, si un incendie se déclarait, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les services anti-incendie puissent arriver au moins à temps et permettre de pouvoir éteindre ce feu pour pouvoir récupérer au moins quelque chose?
Oui, en tout cas, à mon avis, moi je pense que d'abord ce service-là, on devrait prévoir ce service dans presque toutes les villes ou même dans certaines sociétés. Dans ces sociétés qui ont quand même des activités assez importantes ou qui ont une taille importante, on peut prévoir ces services pour qu'ils puissent intervenir au moment où on a besoin de lui. Et puis surtout leur donner aussi les moyens nécessaires, qu'ils aient des mazouts en permanence pour les camions, qu'ils soient sur stand-by, tout à fait prêts pour parer à toute éventualité en cas d'un incendie qui serait déclaré quelque part.
Merci Edmond. Vous pensez qu'il faudrait que ce service soit présent à proximité de la population, mais aussi que ce service soit bien équipé. Merci Edmond pour votre témoignage et bonne journée à Matadi. Bonjour The Best.
Oh, bonjour maman Marie-Chantal.
Vous êtes à Chicapa, on vous écoute.
Oui, moi je voulais plus parler concernant l'incendie qui ont dit donc lié ici à Chicapa. Par exemple, le cas de l'explosion de la maison La Joie qui avait donc fait la peur des différentes vies humaines. Il y avait 3 morts, 3 personnes qui étaient donc mortes, et d'autres bien qui étaient, donc formés comme ça. Et à cause de ces incendies-là, l'autorité, donc, l'autorité urbaine avait pris donc une décision de pouvoir au moins délocaliser tous les dépôts de carburant. Il y a un lieu donc qui est donc réservé pour les dépôts de carburant. Et l'autorité urbaine avait donc donné un délai de 30 jours au dénager des carburants. Et ces derniers n'ont pas accepté qu'ils puissent au moins faire un déplacement. Et ils ont même atteint les délais accordés par l'autorité urbaine. Au moment où nous vous parlons, toutes les maisons de carburant sont scellées. Et à Chicapa, on est en train de vivre une vie difficile concernant les carburants. Aujourd'hui, les prix d'un litre de carburant qui s'élève à 2500 voire 2000 francs, peut-être ici à Chicapa. Vraiment, on souffre.
Donc, avant, les dépôts de carburant se trouvaient en pleine ville de Chicapa, dans les quartiers résidentiels.
Oui, Marie,
parce que vous avez dit qu'on a délocalisé les dépôts de carburant, ça signifie qu'avant ces dépôts de carburant étaient situés en pleine ville, donc dans les quartiers résidentiels.
Oui, les dépôts de carburant se trouvent en pleine ville, là où il y a les grands marchés, là où se trouvent les dépôts de carburant. Maintenant, l'autorité a décidé d'en prendre ça, il faut qu'on puisse au moins délocaliser ces carburants, ces dépôts ici. Au moment où je vous parle, les dépositaires de carburant ont refusé de pouvoir au moins se déplacer. on a scellé leur maison.
Donc ils ont plusieurs raisons qu'ils avancent peut-être pour ne pas se déplacer, mais là n'est pas notre problème aujourd'hui. Nous parlons des incendies, de la lutte des services anti-incendie. Mais est-ce pas qu'il n'y a pas, il y a ce service-là?
C'est que moi, je voulais vous dire, Marie-Chantal Loma, ici à Chikapa, on n'a pas ce service-là de l'incendie ici à Chikapa. Ce service-là n'existe pas ici à Chikapa.
Et au moment où l'incendie s'est déclaré, qu'est-ce qui s'est passé?
Moment, moi, je vous parle, parce que l'incendie s'était donc intervenu à partir de 1h du matin, 1h et de 1h là. Il y avait toujours des gens qui venaient là, on voyait toujours comment les maisons.
Donc la population tentait peut-être de jeter du sable ou quelque chose comme ça, ou bien ils étaient tout simplement spectateurs face à l'intensité du feu.
Personne, parce qu'on était arrivé là où il y avait le feu, les gens étaient toujours là, étaient toujours des criailliers, il y avait personne qui arrivait toujours là. Et les maisons qui faisaient que brûler là, même les enfants qui étaient même là-bas, étaient aussi consumé à cause de ces faits-là. Comme ça, il arrivait au point du fait.
Merci, Jebest, pour votre intervention à partir de Chikapa. Apparemment, vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait des mesures préventives, hein, notamment, vous pensez, cette délocalisation de ces dépôts de carburant qui pourrait éviter de pouvoir, en cas d'incendie, de pouvoir propager, que l'incendie se propage dans les maisons, dans les résidences des personnes. Merci, The Best, pour votre intervention.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Romain Wilfried de Kingoulou, vous avez suivi nos auditeurs, des témoignages assez poignants, une personne qui a perdu tous ses biens, 90%. Aujourd'hui, il vit dans des conditions assez difficiles. Aussi, ce témoignage de Chikapa, où il y avait des dépôts de carburant situés en pleine ville. On n'a pas pu peut-être lui demander quelles étaient, en fait, les précautions que ces dépôts avaient peut-être pris avant pour pouvoir lutter contre ces incendies. Vous êtes expert en la matière. Quelle est votre réaction?
Merci, Marie-Chantal. J'ai réagi d'abord à l'auditeur de Matadi. Pour Matadi, je lui dirais que la cause est électrique. La cause étant électrique, mais lui, il n'a pas dit qu'est-ce qu'il a laissé brancher dans sa maison. Il n'a pas dit ça. Il a parlé seulement de l'incendie qui a consumé tous ses biens et lui est resté maintenant dehors. 90% de ses biens sont consumés par l'incendie. Moi, je dirais ceci. La cause étant électrique, il y a ce que nous devons retenir. Il y a eu des machines ou des appareils qui étaient branchés. Ça, il doit nous le dire.
Bon, il sait ce qu'il a dit parce que c'est une cause électrique de toute façon.
Oui, la cause électrique.
La maison a brûlé et maintenant, il a souligné que c'est une cause électrique.
Oui, la cause électrique pour Marie-Chantal ne suffit pas. Parce que dans la cause électrique, il devait nous dire est-ce qu'il y a eu surcharge de circuit.
Ça, il ne peut pas savoir parce que sa maison a brûlé.
Oui, sa maison a brûlé. C'est seulement sa maison qui a brûlé et non la maison des autres habitants du quartier. Il pouvait, lorsqu'il y a eu coupure du courant, c'est ce que je pouvais dire, lorsqu'il y a coupure du courant, il faut tout débrancher.
C'est une précaution.
C'est une précaution, il faut tout débrancher. Et lui est parti en deuil sans devoir penser à débrancher les appareils qu'il a à la maison, les appareils électroménagers. Et comme conséquence, quand il y a reprise du courant, ça ne rentre pas à 220. C'est plus de 220. Il y a des conséquences. Et si cela trouve un appareil branché, il doit y avoir un court-circuit.
Donc il y a plusieurs origines d'incendie. Ça peut être électrique. Ça peut aussi être comme le cas du carburant qui a pris feu. Peut-être qu'il y a une étincelle ou quelque chose comme ça. Mais ce qui nous intéresse vraiment le plus, c'est les services anti-incendie.
Oui.
Comme l'a souligné notre auditeur de Matadi, le service est arrivé en retard. Souvent, on se plaint que ce service arrive toujours en retard, très en retard.
Oui, étant expert en la matière, le service ne vient pas en retard. Et il faut voir dans quelles conditions ce service sont utilisées. Vous comprenez? Nous sommes, par exemple, je n'ai jamais fait Matadi. Mais parlons de, prenons un exemple comme ça, prenons l'exemple de Kinshasa. Il y a un incendie qui se déclare à l'est, Django. Est-ce que nos chauffeurs ont la culture de faire passer un véhicule d'incendie? Or, dans d'autres milieux, dans d'autres cieux, il y a la bande du milieu est réservée pour les urgences. Et dans ce monde-là, les urgences, c'est quoi? Il y a seulement l'ambulance et l'incendie, ce service-là. Quand une sirène retentit, vite, les usagers de la route se déploient et laissent le milieu entièrement libre. Et à ce moment, il y a aussi accessibilité de nos infrastructures. Est-ce que c'est praticable? Est-ce que c'est facile pour arriver en ville?
Et voilà la proposition même des mots hein, qui pensent qu'il faudrait que ces services soient à proximité. Parce que vous pensez qu'il faudrait faire des longues distances pour arriver parce que un incendie peut se déclarer n'importe où. Ça ne choisit pas un endroit.
Ça c'est vrai, l'incendie ne choisit pas et l'incendie ne s'annonce pas. Rester à proximité, c'est pour que l'incendie n'est pas un agent de sécurité pour veiller à la porte d'un patron. L'incendie, c'est un incidental. Cela se déclare, il faut d'abord que la personne qui est victime de l'incendie ait du moins une maîtrise de pouvoir d'abord attaquer l'incendie avant que la main-d'œuvre ou le service approprié soit présent. Et si dans son milieu, il n'y a pas ce service, est-ce qu'on ne saura pas faire un effort pour faire l'extinction? Et je pense qu'on le fera. Mais le vrai problème ici, c'est qu'il y ait une précaution. La précaution, c'est quoi? Pour ceux qui utilisent du courant, par exemple, il ne faut pas laisser de machines en surcharge. Les machines sont sous tension. Et quand les machines sont sous tension, il y a possibilité d'être visité par l'incendie.
Ça, oui, nous allons écouter aussi d'autres auditeurs, hein, d'autres auditeurs plutôt qui veulent aussi témoigner, donner leur point de vue. Nous avons par exemple Imurani Sapros de Kindu au Maniema, il nous écrit ceci. La semaine dernière ici dans la ville de Kindu, nous avons connu un incendie d'une maison commerciale en pleine ville où presque tous les biens qui s'y trouvaient ont été consumés par le feu. Aucun service de l'État anti-incendie n'est venu à la rescousse. Et il se pose même la question si ce service existe, sauf la MONUSCO qui a dépêché son camion anti-incendie après que la maison ait été brûlée. Celle-ci a été cherchée par la population dans les différents discours des politiciens, voire des dirigeants de la province. Jamais ils ne font allusion au service anti-incendie et ça c'est le cas au Maniema. Bonjour Marcelin.
Oui, bonjour journaliste, bonjour à tous les éditeurs de la radio Kindu. J'appelle depuis Kindu.
Vous appelez depuis Kindu, est-ce que vous confirmez qu'effectivement à Kindu il n'y a pas de service anti-incendie qui appartient à l'État?
Je vous assure qu'à Kindu il n'existe pas même un seul véhicule anti-incendie. S'il en existe un, il appartient à la MONUSCO. Alors que chaque fois, il s'enregistre beaucoup de cas d'incendie dans la ville ici ou à l'intérieur de la province. Les derniers temps en date ici de la semaine passée, là où nous avons vu l'incendie, dans un grand bâtiment de la ville, le bâtiment qui abritait 5 grands magasins, s'il vous plaît. Maintenant, quelque chose comme cela, les véhicules anti-incendie de la MONUSCO est arrivé avec un grand retard pendant que l'incendie était déjà terminé. C'est vraiment que le comportement ici chez nous est que si l'incendie se déclare, si et seulement si la population n'a pas été à mesure de maîtriser cet incendie bien avant, non, comme ça, nous laissons seulement jusqu'à ce que le feu lui-même va se terminer. Et puis, le gouvernement, Nous sommes fatigués, et ça, la population, nous sommes fatigués avec les recommandations et les demandes qui n'ont pas de suite.
Mm-hmm.
Et j'aimerais poser une question à monsieur l'invité du jour là-bas.
Mm-hmm.
Est-ce que même les privés peuvent avoir les véhicules anti-incendie?
C'est une bonne question hein, pour savoir si un privé peut monter une entreprise hein, pour anti-incendie. Merci beaucoup Marcelin. Il faudrait savoir que la MONUSCO, comme d'autres structures, avant que quelque chose puisse être déployé, il faut des autorisations et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est toujours préférable que l'État aille aussi son service anti-incendie, parce que là, c'est son devoir, parce que la MONUSCO a bien sûr un mandat, mais voilà, c'est pourquoi des fois, elle fait un effort pour pouvoir vous appuyer et vous aider, mais il y a autant d'autorisations avant que ça arrive, mais néanmoins, c'est venir au secours des personnes qui sont quand même en danger. Merci pour votre participation, votre intervention. Notre invité va répondre à votre question. Nous prenons aussi Georges Dumbuy-Maï qui va aussi s'exprimer à propos des incendies. On vous écoute, Georges.
Ok, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Hein.
Mm-hmm.
Je dois vous informer que depuis que je suis en Bourgogne, il y a maintenant 4 ans, je n'ai jamais vu un camion anti-incendie. Et que je trouve que l'État congolais n'a pas une politique spécifique en matière de lutte contre les incendies. Mais au-delà, j'ai une question à adresser à votre invité. Monsieur l'invité, ne voyez-vous pas que le déficit que nous avons dans notre pays en matière de lutte contre l'incendie, c'est parce que l'État congolais est discret en matière de lutte contre l'incendie. On sent que l'État, la lutte contre l'incendie, n'est pas sa préoccupation. Voilà un peu ma question.
C'est votre préoccupation. Merci, Georges, pour votre intervention. Bonjour du ciel.
Oui, bonjour, moi, Marie-Chantal.
Oui, vous êtes à Beni, on vous écoute.
Ok, ici, vraiment, c'est à Beni, Isabelle Costa. Il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de service à pied incendie, longtemps par là. Je me souviens à un incendie, ils étaient produits dans un dépôt de carburant. C'était vraiment un incendie très grave, un certain dimanche. Voilà, il a fallu faire un secours à la MONUSCO, donc qui est aussi venu en retard, se trouvant à plus de 10 km. À l'aéroport Mavivi, et puis même ici, le service était arrivé, c'était déjà un grand retard. Ou alors, tu as occasionné bon, des pertes, surtout les pertes de ces dépôts. Bon, il y avait même des personnes qui étaient touchées. Et suite à cela, j'ai une question que je vais poser. Bon, si la MONUSCO partait, quelle serait la situation, par exemple, de notre ville? Parce que, localement, il n'y a pas d'organisation des services d'incendie. C'était ça ma préoccupation.
Merci du ciel. Vous êtes à Beni. Merci pour votre intervention à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Guingoulou, beaucoup de préoccupations hein, de nos auditeurs. Je pose beaucoup de questions pour savoir comment ça va évoluer. D'autres soulèvent. Peut-être qu'un jour, la MONUSCO pourra partir, parce que c'est une mission. Un jour, on va arriver à la fin de cette mission. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir monter un service anti-incendie?
Marie-Chantal, la première des choses, c'est, je voudrais seulement vous dire que si nous sommes venus ici, c'est pour parler aux gens qui le service anti-incendie ou ce service qui se plairait. Le fait, l'incendie qui consume et qui se plairait, qui endeuille beaucoup de familles. C'est pourquoi le centre de formation pour la protection civile a le souci de former les gens dans toutes les provinces et tous ceux qui nous suivent soient tendent leurs mains pour que ce centre soit chez eux. en bouche. Oui.
Vous êtes un expert, vous savez comment ça se passe. Si vous étiez aujourd'hui demandé de monter peut-être une structure qui doit lutter contre les incendies, qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de moyens? Qu'est-ce qu'il faut?
Ce service, la structure à monter pour défendre contre ça, et il faut qu'il y ait beaucoup de moyens, ça c'est vrai. Mais avant qu'il y ait des moyens, les moyens en soi c'est quoi? Il y a les moyens matériels, financiers et humains. Mais ici nous voulons d'abord avoir des moyens humains, former les gens pour que lorsqu'on aura des moyens matériels, et ça sera facile à les utiliser. Mais présentement, le service... présentement, l'incendie qui est en fait doit être combattu. Il doit être éradiqué comme le paludisme.
Mm-hmm.
Vous comprenez? Si l'État prenait ça en charge entièrement pour que dans des provinces qu'on trouve un service anti-incendie et les gens que nous allons former seront à mesure d'utiliser le matériel qu'ils vont trouver en place.
Mmh. Nous savons que ce service décentralisé, donc chaque entité décentralisée, normalement, devrait s'organiser pour pouvoir créer et installer un service anti-incendie. Vous êtes un expert. Est-ce que vous avez essayé de temps en temps de mener des plaidoyers pour que cela puisse exister? Par exemple, à Kinshasa, nous avons quand même un service. C'est vrai que c'est presque le seul le service. Il est en plein centre-ville. Des fois, c'est un peu difficile d'aller dans des communes qui sont éloignées pour pouvoir aider les personnes qui connaissent des incendies. Quels sont les plaidoyers que vous menez pour que l'État puisse prendre conscience que ce service est très important?
Marie-Chantal, moi étant formateur et expert de centre de formation pour la protection civile d'un syndicat, SACAS, nous sommes en contact avec la police d'incendie. Vous comprenez? La police d'incendie avait déjà pris les dispositions, avait écrit à l'autorité compétente de pouvoir étendre ses services dans les provinces et surtout dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. Et il reste maintenant à l'autorité d'agir. Mais les demandes sont déjà faites. C'est pourquoi nous insistons pour que ceux qui veulent lutter contre l'incendie viennent suivre la formation. Il y a des modules appropriés pour que ces gens apprennent la formation et seront en mesure d'attaquer le feu là où il va se déclarer.
Donc la formation des personnes en attendant les équipements, c'est tout ça, votre logique.
Tout à fait.
On va écouter aussi Serge Dougounia, Banchar Mbandaka et Patrick qui vont aussi donner leur avis et leur témoignage dans leur milieu, comment ça se passe chez eux.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Serge.
Oui, bonjour Chantal et bonjour aussi à l'expert qui est avec vous.
Serge, on vous écoute.
Oui, en effet, Marie Chantal, vous comprenez qu'aujourd'hui, ici à Bounia, la présence des appareils qui doivent encore aider pour la vie de famille, mais c'est une part de notre entrée. Donc, vous comprenez avec moi qu'aujourd'hui, pour parler de ce matériel de la vie de famille, c'est lui qui, grâce à l'effort que mon coach est en train de faire quelque part d'une manière un peu sporadique, même si cette situation est arrivée. Donc, nous comprenons qu'aujourd'hui, à Bounia, je suis sûr qu'il devait aider à ce que les gens pourront être victimes d'une situation de famille, non pas au moins un avenir ou disons un garantie pour que s'il y aurait cette situation, comment il pourrait être aujourd'hui de dommager ou carrément arriver des dépôts. Donc je pense, à mon avis, il faut carrément qu'il y ait un travail chirurgique qui pourrait se faire avec toutes les régies financières, notamment la DGI, et aussi le centre de recevoir ces différentes taxes sur le produit que premier, en l'occurrence c'est que nous sommes en train de prélever aujourd'hui à Bounia. Donc, je pense que tous ceux qui vont y prélever beaucoup de l'État pourront aussi aider à s'acheter un mode d'une façon autonome. Donc, c'est un appel à qui est sans doute pour que aujourd'hui à Bounia, les opérateurs économiques puissent aussi retrouver comment ils pourront se retrouver quand il y aura une situation défendue dans notre pays.
Que chacun puisse s'organiser de façon, de manière autonome, par exemple, comme c'est le cas à la RVA. La RVA aussi son charroi automobile pour lutter contre les incendies. Donc vous pensez que chaque entreprise, chaque institution devrait d'abord personnellement, individuellement s'organiser. C'est ça votre préoccupation, Serge?
Oui, évidemment. Et aussi, je voulais peut-être l'inviter par rapport à la chômage, parce que la chômage aussi, il faut appeler certaines situations. Et dans notre aujourd'hui, par rapport à leur prime d'assurance, aujourd'hui, s'il y a une situation défendue, que les gens pourront encore être demander pour qu'on puisse encore réparer ce préjudice. Je pense, à mon avis, ce travail-là devait être d'abord quelque chose de dans le chef même de ce opérateur économique qui se prend de ça à cœur, et qu'on retrouve aussi une situation le plus vigilante possible.
Merci Serge pour votre intervention. Mais n'oublions pas que si vous voulez être dédommagé à la SONAS, il faut d'abord souscrire pour une assurance incendie. À ce moment-là, on pourra vous dédommager. Il y a Omer Suegui qui nous écrit à partir de Bukavu. Il écrit ceci: pour ce qui concerne la situation des incendies ici à Bukavu, c'est une suite d'actions comme dans un film il n'y a pas longtemps, à côté d'un établissement public appelé ISDR, un home des étudiants a été incendié. Donc c'est grâce à la Pharmakina et à la MONUSCO, ils ont pu dépêcher des véhicules anti-incendie, mais c'était arrivé en retard. Pourquoi est-ce que l'État, ici à Bukavu, le gouvernement provincial, ne dispose pas d'un seul véhicule anti-incendie? Donc nous sommes comme des virus qui vivent qu'aux dépens des secteurs privés. Il faut que l'État dispose des moyens pour pouvoir donner à la province un service anti-incendie. Bonjour Blanchard.
Oui, bonjour Marie-Chantal.
Oui, de Mbandaka, on vous écoute.
Oui, à Mbandaka, je vais d'abord commencer par pleurer parce que en plein 21e siècle et surtout 50 ans après l'indépendance, une province comme la nôtre ne puisse pas disposer d'un véhicule anti-incendie. Et je me demande, je ne sais pas si nos autorités ont un regard sur cette situation parce que cette situation est présente.
Il y a vraiment plusieurs cas. Vous avez énuméré, vous avez pu constater qu'il y a plusieurs cas. Et par exemple, au cours de ce dernier mois, vous avez pu compter combien de cas d'incendie?
Au cours de cette année, nous avons enregistré au moins plus de 4 incendies comme ça dans des maisons d'habitation de la population qui habite la ville de Mbandaka. Malheureusement, la MONUSCO n'a jamais pris l'initiative d'intervenir. Elle est vraiment indifférente quand on connaît ce genre de situation.
Alors ça, c'est vous qui le dites, mais dans d'autres provinces, on a eu des témoignages que la MONUSCO est arrivée, mais la MONUSCO ne peut pas se mettre dans tous les quartiers, dans toutes les avenues. Souvent, les véhicules anti-incendie de la MONUSCO se trouvent souvent à l'aéroport. Et l'aéroport, comme nous le savons tous, est vraiment éloigné de la ville où on répertorie souvent des cas d'incendie. Mais on vous écoute, Blanchard, quelles sont vos propositions? Blanchard? On a perdu Blanchard, il nous parlait, il nous a fait un témoignage de la situation à Mbandaka. Il dit qu'il y a des cas récurrents d'incendie, il estime que l'État devait faire un effort, notamment au niveau, comme c'est c'est décentralisé, donc au niveau de chaque province, de voir dans quelle mesure ils peuvent se doter d'un service anti-incendie. Bonjour Patrick.
Bonjour Marie-Chantal.
Vous êtes à Lubumbashi, on vous écoute.
Oui, je suis à Lubumbashi. Je voulais intervenir sur le sujet du jour. Vous savez, à Lubumbashi, le gouverneur a donné à la mairie 3 camions anti-incendie. C'est presque une année que ce camion existe. Mais ce camion, on a été utilisé une seule fois. Et la seule fois qu'on a utilisé, ça c'est pour chasser les gens qui font le marché pirate. Et pourtant, quand nous regardons bien à Lubumbashi, il se passe 15 jours sans qu'il y ait d'incendie déclaré à Lubumbashi.
Mais il y a au moins des choses que nous devons louer, c'est que la RVA se donne la peine de quitter l'aéroport là où il y a les camions qui ont incendié pour aller un peu essayer d'ici. Mais malheureusement, ces camions arrivent toujours en retard parce que vous voyez, entre l'aéroport et le centre-ville d'abord, il fait 15 km. Et donc, s'il doit aller à 30 km ou plus, sans compter les embouteillages, on ne sait pas faire plus ça. On a essayé de poser la question à la maire de Tombachi, elle dira qu'il faudrait former les gens pour pouvoir utiliser ces camions. Mais ça fait une année que ces camions existent. On se demande quel genre de formation il faut faire pour juste prendre le tuyau et mettre tout. Il y a la FONAS aussi, bon, ce que nous louons, c'est que la FONAS a aussi acheté un camion anti-incendie, mais il n'est toujours pas suffisant parce que la ville de Tombachi est trop vaste. Pour un seul camion, je ne sais pas le faire. C'est déclaré 2 ou 3 incendies, mais comment je me demande comment est-ce que ces camions-là peuvent se partager pour aller dans toutes les communes.
Mais pour vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour que ce service soit vraiment fonctionnel et performant?
Ce qui devrait être fait, c'est par exemple allouer un camion par commune. Nous avons 6 communes. Si on peut allouer 5 camions par chaque commune, et ça reste tous ces camions de l'eau, parce qu'il y a des fois où il y a d'incendie, le camion n'a même pas de l'eau. Si on peut mettre dans chaque commune un seul camion ou deux, cela peut sans pas même servir. Parce que 3 camions pour toute la vie de l'humanité sont insuffisants.
Ok, c'est vraiment insuffisant. Merci Patrick pour votre intervention.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, lors de Kinshasa, et le mercredi de 10h à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient de lundi à vendredi de 11h à 12h et mercredi de 10h, lors de Kinshasa.
Nous poursuivons cette émission Parole aux auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons du service anti-incendie, des incendies dans vos milieux, avec deux questions pour lancer cette émission. La première, avez-vous un service anti-incendie dans votre milieu? Que faut-il faire pour le rendre performant? Nous avons Audrey qui nous a écrit de Bukavu. Il écrit ceci ici à Bukavu. Toutefois qu'il y a une maison qui prend feu, nous entendons les autorités dire qu'il nous faut un camion anti-incendie, mais un jour après, on oublie. Donc c'est un manque de volonté. Il y a aussi Maître Désiré Mulimba Kibela, il nous écrit à partir de Lubumbashi, il écrit ceci. En effet, avant, c'était très compliqué, la ville ne dépendait que d'un seul camion anti-incendie de la RVA, aéroport, qui se situe en fait à l'aéroport de Loano à Lubumbashi, et qui du reste ne pouvait sortir qu'avec l'autorisation de Kinshasa. Dieu merci, aujourd'hui le gouvernement provincial, par le truchement de Moïse Katumbi, nous a doté la mairie de Lubumbashi de 2 camions anti-incendie, mais malheureusement, dans la plupart des cas, ces camions n'arrivent que pour constater les dégâts. Selon moi, la distance et les embouteillages sont parfois à la base de ces arrivées tardives. D'où, pour ma part, pour arriver à trouver une bonne solution à ces situations, je proposerai à notre gouvernement provincial de doter au moins un camion anti-incendie dans chaque commune. Et à ce moment-là, on pourrait gagner du temps en distance et intervenir aussi à temps. Et 80% d'incendies à Lubumbashi sont dus au courant électrique. Donc il a épousé la même idée de l'intervenant de Lubumbashi qui a aussi posé, qui a pensé qu'il faudrait que les services soient à proximité de la population et des habitations. Il y a aussi Freddy Koagialo, il nous écrit à partir de Dallas, c'est aux États-Unis d'Amérique, il écrit ceci. D'après mes connaissances, le gouvernement provincial de Kinshasa a quelques véhicules anti-incendie garés à l'hôtel de ville de Kinshasa. Vu l'étendue de la ville et le nombre de la population, cela ne permet pas un bon déploiement et intervention de l'équipe anti-incendie. Je proposerai plutôt au gouvernement Kimbuta d'acheter et garer les véhicules dans les 24 communes de la ville où les bourgmestres pourront gérer et auront un département anti-incendie pour assister promptement la population situation au cas où un incendie se déclare. Donc voilà, autant de propositions de nos auditeurs. Nous avons invité pour vous dans ce studio Monsieur Romain Wilfried Kingilou. Il est expert dans la lutte contre les incendies. Il va réagir face à toutes ces propositions de nos auditeurs. Mais écoutons d'abord Jean Vicky. Jean Vicky, c'est le président du syndicat des agents et cadres de la sécurité. Bonjour Jean Vicky.
Bonjour Radio Sapi, bonjour à la journaliste.
Est-ce que c'est possible que vous puissiez éteindre votre poste récepteur parce qu'il y a un retour qui est assez désagréable? Et dites-nous un peu, vous connaissez, vous êtes président d'un syndicat des agents et cadres de la sécurité, donc vous avez un département qui est chargé de la lutte contre les incendies. Dites-nous un peu quel est votre avis, parce que la plupart des provinces ont signalé qu'il n'y a pas de services anti-incendie, c'est assez difficile. La plupart des services de l'État n'ont pas de services anti-incendie et ce sont que des institutions ou des entreprises comme la RVA qui disposent de ces services-là. Et vous, quel est votre avis face à cette situation?
Oui, merci beaucoup, maman, merci beaucoup, madame. Les auditeurs, bonjour. Et merci pour vos questions. Voilà, nous sommes réellement, nous avons commencé par être un syndicat, comme vous venez de le présenter, syndicat des agents et cadres de sécurité. Mais nous nous sommes dit, mais les gens qui viennent dans ce secteur ne maîtrisent pas forcément ce qu'il y a. Mais pour la question du jour, à propos de l'incendie, oui, nous avons constaté avec les auditeurs qu'il y a des problèmes sérieux dans nos provinces et pourquoi pas même dans la capitale. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit aujourd'hui, si nous pouvons venir en auxiliaire à l'État congolais pour pouvoir former, puisque c'est un problème d'importance capitale, regardez un tout petit peu nos femmes ménagères et nos enfants. En fait, à chaque niveau, ce problème existe. Mais nous nous sommes dit ceci, il faut former. Je crois que votre invité du jour au studio vous a expliqué. Il faut d'abord former, puisque quand vous formez, vous avez la facilité. Il y a d'autres méthodes manuelles faciles que l'on peut utiliser qui peuvent aider la population à pouvoir faire face à cet incident. Notre auditeur de Lubumbashi a parlé. C'est une des propositions. Il y a aussi celui de Balaz, M. Gouagalo, qui a parlé aussi. Ce sont des propositions qui sont dans nos tiroirs, que nous avons proposées, que nous voulons faire. Nous voulons que nous commencions à faire des colloques, à pouvoir inviter la population, à aller dans les églises, prêcher et parler un tout petit peu ce que c'est cette incidence malheureuse qui est en train de nous faire pleurer à tout moment. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous faites cette émission en français, mais je vous implorerai de pouvoir le faire même en toutes les quatre langues vernaculaires, puisque c'est un problème d'importance capitale. Vous avez constaté vous-même que toute la République en parle. Bon, notre proposition, alors qu'il est, nous voulons à ce que ceux qui sont intéressés à ce problème pour pouvoir faire face, nous ne disons pas que nous allons éradiquer, non, mais nous allons diminuer un tout petit peu ces incidences dans nos maisons et dans nos postes professionnels. Alors, nous voulons à ce que les gens qui nous suivent en ce moment, qui se disent autorités, qui se disent citoyens tout court, qui se disent n'importe quelle classe sociale, qui viennent nous visiter, il va trouver qu'il y a des formations, et ces formations, nous les mettons à la portée de tous afin que nous puissions faire face à cela.
Vous demandez à d'autres, aux habitants, je ne sais pas, de Kindu, de Kisangani, comment ils vont faire eux, pour pouvoir accéder à ces formations?
Oui, alors qu'il est, je sais que... si quelqu'un de Kindu peut nous inviter pour une formation, nous y descendrons. Nous avons des formateurs de formateurs qualifiés. Ils vont pouvoir descendre, ils vont former les gens. Si vous nous appelez en Bujimaï, vous nous appelez à l'Équateur, vous nous appelez au Bas-Congo, au Bandundu, et pourquoi pas, c'est notre République, puisque le chef de l'État avait promis de pouvoir se prendre en charge. Voilà que ce centre, nous l'avons initié, c'est pour nous, les Congolais, pour que nous puissions tenter à la mesure du possible, même si nous ne faisons pas le 20%, mais que nous fassions quand même le 2%, c'est déjà un pas. Vous comprenez que ça, notre souci.
Merci beaucoup, monsieur Jean-Vicky. On vous comprend. Vous pensez qu'il faudrait d'abord passer par la sensibilisation, d'abord revenir, voir aussi dans quelle mesure, quels sont les premiers gestes en cas d'incendie. Et vous pensez que la première chose à faire, c'est former les populations à ce sujet. Nous vous remercions pour votre intervention à cette émission. Nous allons aussi écouter le colonel Ndibou. Il est de la police anti-incendie ici à Kinshasa. Bonjour, colonel.
Bonjour, maman.
Oui, vous êtes responsable de ce service. Dites-nous quelles sont vraiment les difficultés que vous rencontrez pour pouvoir exercer votre métier.
Merci, maman, pour la question. Les difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de notre mission, nous avons d'abord l'état de nos routes, nous avons d'abord les embouteillages, et nous avons la distance qui nous sépare du cas du sinistre. Nous nous sommes installés à la Bombay. Si un incendie se déclare en Binza ou à Matete ou en Gili, vous voyez le temps que ça prend. Donc c'est ça les grandes difficultés. Nous pouvons disposer du matériel pour intervenir, mais ça prendra beaucoup de temps. Dans le cadre des interventions incendies, c'est le temps, ce sont des minutes qui comptent.
Et pour l'instant, vous êtes, c'est un service de la police, donc vous êtes rattaché à la police. Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait pour pouvoir, on peut dire que ce soit des services qui soient à proximité. Est-ce que vous avez un projet, vous avez fait des propositions au niveau de votre hiérarchie?
Nous sommes de la police incendie. Nous sommes un service autonome. Nous sommes un service qui dépend directement de l'autorité urbaine. Les projets que nous avons, les projets qu'a aussi l'autorité urbaine, c'est d'installer ce service d'abord dans les districts. Après, on pourra voir s'il y a occasion, s'il y a de moyens, pour qu'on puisse aussi l'installer dans des communes. C'est ça les projets de l'autorité urbaine concernant notre service. En ce qui concerne, je voudrais suivre quand vous avez parlé de la sensibilisation avec vos invités. Je voulais souligner que notre service dispose de détachements qui sont affectés dans toutes les 24 communes. Et ces détachements, les agents affectés à ces détachements font la sensibilisation dans toutes les maisons à caractère commercial, caractère résidentiel, et dans de maisons à étage multiple. C'est un travail qui s'est fait depuis de longues années. Mais le travail pouvait aussi se faire sous un autre aspect. Par exemple, j'avais sollicité un espace à la radio Kinshasa. Donc, cet espace pouvait me permettre, comme nos amis de la PNC, ils ont une émission à la télévision, si on pouvait aussi me céder un espace à la télévision, ça pouvait nous arranger. Je suis allé, j'avais vu les responsables de cette télévision, mais ils m'ont donné une facture qui m'a fait peur. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas en mesure de vulgariser tout ce qu'on peut dire sur l'incendie. Nous avons des formateurs, nous avons des techniciens, nous avons des gens expérimentés qui sont sortis de grandes académies européennes et qui peuvent très bien faire ce travail. Ce sont des moyens qui nous manquent.
Oui, vous êtes un soldat du feu, vous avez suivi peut-être nos auditeurs partout dans toutes les provinces, il se plaint, il n'y a pas un service de l'État pour lutter contre les incendies. En écoutant toutes ces déclarations, tous ces témoignages, qu'est-ce que vous ressentez?
Je n'ai pas malheureusement suivi tout ça, madame. Je suis arrivé, on m'a passé les téléphones un peu en retard. Les réclamations, je peux vous dire que les réclamations ne manqueront pas. Parce que les incendies continuent toujours à se produire. Le problème, c'est que l'autorité pense à réaliser, à concrétiser ces projets, les projets consistants à installer, comme je vous l'ai dit, le service dans des districts et dans des communes. Donc ça va beaucoup nous rapprocher de sinistrés. Donc aussi longtemps que le service est encore à la Gombe, à plusieurs kilomètres de d'autres communes, c'est difficile d'intervenir. Ça c'est un de deux. Et la population devra se connaître que si un incendie se déclare, qu'elle apprenne aussi à se prendre en charge. Se prendre en charge comment? la population peut disposer de moyens de premier secours, qui sont les extincteurs. Quand vous disposez de vos extincteurs, quand un incendie se déclare, comme tout feu commence petit, vous pouvez utiliser avant tout vos extincteurs. Et quand vous constatez que ça ne va pas, vous appelez maintenant le service. Ça, c'est de trois. Notre population, quel que soit ce que nous faisons d'elle, il y a d'autres qui ne nous écoutent pas. Comme beaucoup de gens suivent le théâtre, suivent le cinéma, ils n'ont pas le temps d'écouter de messages concernant la cybersécurité. Parce que quand il y a un incendie se déclare sur vous, la première des choses, c'est d'avoir du courage. Vous avez du courage, vous ne paniquez pas. Si vous avez le moyen de premier secours, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'en avez pas, n'ayez pas confiance aux jeunes du quartier. Appelez directement le service. Appelez directement le service et le service fera tout pour mettre le matériel à votre disposition. Mais notre population ne le fait pas. Ne le fait pas. Quand il y a un incendie, ils sont paniqués, ils sont découragés, ils ont confiance aux jeunes du quartier. C'est seulement quand ils constatent que ce que ces jeunes ont fait n'a pas tenu, c'est à ce moment-là qu'ils nous appellent. C'est quand ils appellent notre service. Ils arrivent, tout le monde commence à crier, ils sont arrivés en retard. Ils sont arrivés en retard. On nous jette des pierres, on brise les parapluies, on casse les parapluies, on blesse les soldats du feu. Ce sont des pratiques qui ne sont pas encouragées.
Merci beaucoup pour votre intervention. Mais il est arrivé une fois, on a vu des soldats du feu qui sont arrivés avec leur camion était incendié, ils essaient de lancer de l'eau, le véhicule n'a pas d'eau. Donc vous voyez que des fois aussi ça démoralise quand même.
Non madame, nos véhicules dorment avec l'eau dedans. Ce n'est pas un service qui se fait par hasard. C'est un service qui se fait par des techniciens, des gens qui l'ont étudié sous autres cieux. C'est un service qui est bien planifié. Après l'intervention, quand le véhicule rentre à la caserne, le véhicule a l'eau, on passe par une bouche, on ravitaille le véhicule et il dort avec l'eau dedans.
Et des fois même on apprend, le véhicule n'a pas de carburant, il ne peut pas se déplacer.
Non, ça ne se fait pas madame. Nous avons du carburant du 1er au 30. L'autorité urbaine met du carburant à l'exposition de notre service. Tous les jours, chaque semaine, nous avons du carburant. Nos véhicules ne manquent jamais de carburant. Vous pouvez dire que nos véhicules peuvent tomber en panne, parce que la plupart de nos véhicules sont déjà vieux. Ça, c'est vrai. Mais dire que nos véhicules manquent de carburant, ça, c'est faux et archi-faux. Dire aussi que nos véhicules manquent de l'eau, c'est faux.
Merci beaucoup, colonel Ndibou, pour votre intervention à cette émission et aussi courage, hein. Dans votre travail qui est assez délicat, nous allons revenir à notre invité qui va conclure cette émission. Il va donner quelques précautions peut-être, comment prévenir ou bien comment les premiers actes en cas d'incendie. Mais il va aussi conclure aussi, nous allons lire le mail de Hubert. Il est de Bukavu, il nous a écrit ceci. Il y a des cas d'incendie déplorés à Bukavu. C'est de la faute d'un ancien directeur de la SNEC qui spéculait avec les prêts à payer pour payer les factures de la SNEL. Par conséquent, il y a ce fameux système qu'ils appellent là-bas d'aoulage, qui signifie s'alimenter en énergie à partir de chez son voisin, à partir de son voisin. Ce d'aoulage, ça c'est en langue, en dialecte chi. Et comprenez par là que les profanes transformés en électriciens s'alimentent en énergie électrique avec tous les risques qui pourraient en résulter. C'est ainsi que 90% des cas d'incendie à Bukavu ont pour origine le mauvais contact des fils électriques.
Parole aux auditeurs.
Nous arrivons à la fin de cette émission, monsieur Romain Ouchry de Kingoulou, vous étiez notre invité tout au long de cette émission, vous avez suivi les avis de nos auditeurs. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir?
La population qui se plaint souvent de manque d'assistance rapide par l'autorité nationale, cette population doit savoir ce qui suit. Quelle est la première de personne à se protéger? C'est ça la sécurité. Mais en cas d'incendie, pour que l'incendie ne vous visite pas, il faut débrancher les appareils après usage.
Non, il y a d'autres qui sont des incendies d'origine, ce sont souvent des bougies.
Oui, tout à fait.
Et là, c'est vraiment pertinent parce que nous voyons des personnes qui sont calcinées à cause d'une bougie.
Oui, mais Marie-Chantal, vous devez aussi vous-même comprendre que lorsque vous utilisez la bougie, il faut qu'il y ait une plaque en métal qui va absorber le liquide de l'huile que la bougie fait couler. Si l'huile de la bougie est en contact avec une substance combustible, et attendez-vous à un dégât qui sera désagréable. Et alors, il y aura un incendie.
Il y a même des incendies de feux de brousse, hein?
Oui, les incendies.
Pendant la période de la saison sèche.
Oui, ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais ici, je voudrais d'abord insister à ceux qui sont à Kinshasa, qui habitent les zones urbaines.
Mm-hmm.
Il faut faire attention avec l'électricité, parce que c'est une des causes. Et aussi l'utilisation de bougies. Et il y a le fumeur. Là, nous allons parler de l'imprudence.
Mm-hmm.
Il faut faire attention avec un mégot de cigarette. Il ne faut pas le jeter n'importe où. Il suffit qu'il soit en contact d'une substance combustible. Et s'il y a une source d'étincelle ou d'une flamme, attendez-vous qu'il y a possibilité d'incendie. Et pour le feu de brousse, pour ceux qui sont dans des milieux ruraux, il faut débroussailler. Laisser les alentours de leur case propre, afin que même si le feu a connu une propagation, que votre case ne soit pas bridée.
Et aussi, la plupart des recommandations de nos auditeurs, c'est que le gouvernement quand même puisse mettre à la disposition, et cela d'une façon assez proche, hein, des services anti-incendie.
Oui, ça c'est vrai. Nous avons suivi aussi ce qu'un auditeur a dit. C'était important. Il a dit que l'opérateur économique doit d'abord se prendre en charge. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous parlons de la prévention, comme le colonel l'avait dit, les opérateurs économiques sont demandés à avoir le moyen de premier secours qui est l'extincteur.
Mm-hmm.
Parce que le feu, l'incendie commence par être un feu.
Une étincelle.
Et quand vous négligez le feu, tant qu'il est petit, il deviendra grand. Vous voyez par exemple ici Marie-Chantal chez vous. Ici dans le studio ça va. Mais c'est quand nous sommes de l'autre côté, les conditions dans lesquelles vous travaillez, il y a la chaleur. Vous voyez cette chaleur-là est aussi à la base d'un incendie. C'est un des facteurs.
Mmh.
Il faut qu'il y ait un système de refroidissement de machines et des appareils.
Merci beaucoup, de toutes les façons. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous disons merci aux auditeurs qui ont participé. Nous prenons rendez-vous pour demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Demain, nous parlerons de la décision du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire du 28 juillet dernier portant suspension des écoles doctorales et des chaires UNESCO. Le ministre invite les responsables des établissements qui organisent ces écoles de lui faire rapport afin de trouver avec eux des solutions pour apporter des améliorations. Comment réagissez-vous face à cette décision? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Donc, nous prenons rendez-vous pour demain.